On essaie un nouveau micro, fait que si jamais vous ne comprenez pas bien, c'est pour moi. La solide logique du ciel. J'étais dans un voyage en auto avec ma femme, avec la famille. On s'en allait, je pense, à Saint-Hyacinthe ou je ne sais plus trop où, dans le coin de Montréal. Et puis, je discutais avec ma femme, puis elle me pose une question qui concerne le ciel. Et il y a des sujets sur lesquels nous ne sommes pas spécialistes. Et sa question m'a troublé. Je vous pose pas la question parce que j'ai pas encore une réponse définitive à la question précise. Je suis encore en train d'étudier. Et ceux qui me connaissent savent que je donne pas de réponse si j'ai pas mis 50 heures dessus. Mais ça m'a marqué d'une façon assez profonde pour que ça puisse occuper mes pensées depuis quelques semaines. Et je réalise qu'on connaît pas beaucoup, en tout cas pour moi, je connais pas beaucoup le ciel. Et c'est quelque chose qui, c'est peut-être ma jeunesse, je sais pas, là. Je réfléchissais pas beaucoup au ciel. Et en fait, j'aimerais vous dire qu'on se prive de beaucoup de réflexions là-dessus. Et mon désir aujourd'hui, c'est de vous parler d'un verset en particulier et de poser les fondements pour le ciel, amener quelques réflexions. Dans deux semaines, Dieu voulant, je devrais reprendre la parole et j'aimerais regarder un autre passage qui nous parle aussi du ciel, d'une autre façon un peu particulière et c'est un texte que tout le monde connaît par cœur, qu'on trouve dans le prophète Sophonie. Et on va regarder un texte de ce petit prophète. Et je vous invite à lire Sophonie. Et vous allez voir que si vous êtes comme moi, il y a un texte particulier qui accroche notre attention. Et on va regarder que Dieu va chanter un jour. Juste avant, j'aurai à cœur de prier. Et on va tourner dans Romains chapitre 8. Par la suite. Seigneur Dieu, on veut remettre cette étude entre tes mains. Moi, le premier, Seigneur, je réalise que j'ai une inclinaison à faire ce qui ne te plaît pas. J'ai une facilité à m'éloigner des choses importantes. Et dans cette étude, Seigneur, que j'ai fait pour partager aujourd'hui, je réalise à quel point la foi est importante pour moi, pour les chrétiens. Que le ciel, même pour nous qui sommes jeunes ou moins jeunes, c'est un sujet qui est important. Et ma prière, Seigneur, c'est que tu puisses nous transformer à travers ce sujet. Augmente notre foi, Seigneur. Amen. Romains chapitre 8, on va lire à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, les a aussi glorifiés. Mais que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou le dénouement, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni d'aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le texte qui m'intéresse dans tout ce beau texte, c'est le verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout aussi avec lui par grâce? J'ai intitulé mon message « La solide logique du ciel ». En partant, le mot « logique » peut faire peur ou on peut ne pas l'aimer. Habituellement, un chrétien normal n'aime pas la philosophie, n'aime pas la logique. Et en plus, si on joint le mot « solide » dedans, et là on pense à nos livres de philosophie qu'on a lus en quelque part, c'est fastidieux, c'est plate et ennuyant. Et très peu dans l'Église ici lit des livres compliqués de logique. Et là, en plus, on l'applique au mot « ciel », et là, j'ai le goût de dormir. Mais ce n'est pas un concept philosophique, et je ne veux pas le réduire à un concept philosophique, mais il est important parce que le passage que je veux regarder est un principe de logique appliqué. La Bible n'est pas contre la logique, et Paul, en fait, est un expert en logique et en argumentation. Et ici, le verset est excessivement solide. Mais à quoi sert la logique? À quoi ça se donne d'argumenter? Qu'est-ce que ça fait? En fait, ça démontre, ça persuade, ça convainc. Ça sert à l'établissement d'une fondation. C'est des fondations pour nous, la logique. Ça nous donne une base. En fait, ça nous amène à pas juste avoir des émotions dénuées d'intelligence. Mais en même temps, le passage qu'on a ici fait bien attention de préserver que c'est pas une logique sans émotion. Et c'est pas le but de Paul. Il y a un équilibre là-dedans. Mais c'est un passage, c'est un roc qui est solide sur lequel on peut venir dans des temps de tribulation parce que le passage ici, il fait une liste de choses. Et d'ailleurs, quand il pose la question, que dirons-nous donc? Qui peut être contre nous? En fait, la première réponse qu'on pourrait donner, c'est tout le monde. Et les chrétiens vont être persécutés, vont être ébranlés. Mais ici, Paul établit une solide logique que j'aimerais regarder. C'est une logique qui est imprégnée de gloire. C'est une logique qui est résume dans ce verset à peu près les 8 premiers chapitres. Il y a d'autres résumés, ce verset il arrive pas de façon isolée, là. C'est pas un verset qui est mis à part, il arrive dans une continuité, mais il résume les 8 premiers chapitres d'une façon peut-être radicale, ce que Paul veut dire. En fait, ce qu'il dit, c'est ceci: puisque Dieu n'a pas épargné son propre fils et qu'il l'a livré pour nous, par conséquent, il nous donnera certainement toutes choses avec lui par grâce. Déjà, on commence à sentir la logique. Techniquement, en philosophie, c'est un argument qu'on appelle a fortiori. Je crois que j'ai une diapositive. Un argument a fortiori, c'est un mot qui provient du latin, qui signifie pour une raison plus forte. Qu'est-ce que ça veut dire? Par nature, ce genre d'argument s'impose avec force. C'est pour ça qu'on y a donné ce nom-là. Supposons que vous avez deux tâches à faire, qui doivent être motivés par le même désir, mais que une de ces deux tâches est beaucoup plus improbable que l'autre. Ça va aussi? Je vais donner des exemples, inquiétez-vous pas. De dire que je suis capable de faire le plus grand m'assure qu'il est capable de faire le plus petit. C'est le but de l'argumentation. Je ne veux pas rendre ça trop compliqué. Par exemple, je pourrais donner cet exemple. Tu peux soulever 50 kilos et tu ne pourrais pas soulever 30 kilos. si je suis assuré de soulever 50 kilos, ben, ça va être, je vais être capable de le soulever 30 kilos. Et c'est un argument que Jésus utilise à beaucoup de reprises. Par exemple, dans Jean chapitre 7, c'est un exemple assez clair, juste le lire. C'est le genre d'argument qui dit, je lis juste deux versets, 21-22, chapitre 7 de Jean. Jésus leur répondit, « J'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. » Elle a écouté l'argument de Jésus. « Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous circoncisez un homme pendant le sabbat. » Voyez, ça c'est une petite chose, circoncire quelqu'un pendant le sabbat. Si un homme reçoit la circoncision pendant le sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi? Parce que j'ai rendu la santé à un homme tout entier pendant le sabbat. Voyez, capable de faire le plus grand, puis vous, ben, vous faites des petites choses comparées à ce que c'est le même genre d'argument, et ça revient à plusieurs reprises, Jésus. C'est un argument qui s'impose de par sa nature avec force. Il a comme but de convaincre l'auditoire. Et d'ailleurs, je lisais un essai sur de philosophie sur l'argumentation pour me préparer. Il y a juste moi qui lis ça, mais particulièrement sur cet argument, voici ce que l'auteur disait. L'argument, a fortiori, quant à lui, tâche de ne pas laisser la porte ouverte à la réfutation. L'argument, a fortiori, est présenté comme s'imposant à l'auditoire. C'est un type d'argumentation qui est fort, et l'argument, c'est que je présente le plus difficile et ensuite je demande le plus facile, du plus grand au plus petit. Quelquefois peut être l'inverse. Fin de la citation. Pourquoi est-ce que c'est important? Surtout dans notre passage ici. C'est parce que si Dieu est capable de faire l'impensable, l'improbable, l'inimaginable, combien plus il va être capable de faire des petites choses. Et dans notre texte, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, est la chose impensable, immesurable, incroyable. Ne nous donnera-t-il pas tout avec lui? Nous donner tout est la chose facile pour Dieu. Regardez, le verset se divise en deux sections, le fondement et la promesse. Et commençons par cette fondation. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Une des choses qui me frappe, surtout quand je lis l'Épître aux Romains, c'est de voir la structure de Romains. En fait, Romains, chapitre 1, 2, 3, commence en montrant que tout le monde est coupable. Pas compliqué. Et en fait, si on joint avec le sujet du ciel, ce qui est encore plus étonnant, c'est que personne ne mérite le ciel. Chapitre 1 et 2, il règle la question des non-chrétiens. Chapitre 2 et 3, en partie, règle la question des juifs. Et finalement, on se rend compte que personne ne mérite le ciel. Et là, on arrive au verset 32 du chapitre 8, et là, tout d'un coup, il veut tout nous donner. Qu'est-ce qui se passe? Et on pourrait poser la question, quel est le plus grand obstacle entre moi, dans mon état de pécheur, et moi, étant glorifié dans la gloire, dans le ciel, et probablement que la réponse qui nous vient en tête, c'est le péché. Est le plus grand obstacle. Je suis pécheur, je suis coupable. Il y a un gouffre infranchissable à cause de moi et Dieu, à cause de mon péché. Dieu est en colère. Il a raison de l'être. Je mérite la colère et il n'y a rien que je peux faire qui peut changer le fait que je mérite cette colère. Mais ce que Romains 8, 32 nous apprend, c'est ceci. C'est que le plus grand obstacle entre notre état de pécheur et la gloire, c'est l'amour infini que Dieu a pour son Fils Jésus. L'amour de Dieu pour Jésus est l'obstacle majeur entre Dieu et notre salut. L'amour de Dieu pour Jésus est entre les deux. Et quand j'ai découvert cette vérité-là, ça m'a frappé. Détaillons un petit peu. Lui qui n'a pas épargné son propre fils. Dieu ne tolère pas que son fils soit ridiculisé. Il ne tolère pas qu'on diminue la gloire de son fils. Il tolère pas qu'on se moque de Jésus. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il n'a pas épargné son propre fils. C'est qu'il veut souligner que son fils, d'ailleurs c'est son seul fils, Dieu a un seul fils, et il veut souligner l'affection et l'amour qu'il a pour lui. Et on ne peut pas diminuer cette gloire-là que son fils a. D'ailleurs, il y a plusieurs expressions dans la Bible qu'on connaît, dans lesquelles Dieu témoigne de l'amour de Jésus, pour Jésus, qu'il a avec lui. À la transfiguration, par exemple. Ou au baptême de Jésus, Dieu, le ciel s'ouvre pratiquement et dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et les termes qui sont utilisés, c'est le mot « délice ». Je me délecte. Je prends plaisir en mon Fils. Et je ne tolérerai pas que mon Fils soit dénigré. C'est ça que l'amour que Dieu a pour lui. En fait, j'ai de la difficulté à partager un morceau de tarte aux pommes avec ma femme et mes enfants, et lui donnerait son fils bien-aimé, infiniment bien-aimé, qui a depuis toute l'éternité face à lui, qui sont en communion parfaite, lui le donnerait dans la boucherie pour nous, impensable. Ouais. John Piper dit ceci. Mon péché n'est pas l'ultime obstacle à mon salut parce que ce qui rend mon péché si horrible, c'est qu'il dévalorise la gloire toute satisfaisante du Père et du Fils et de l'amour infini entre eux. La colère de Dieu n'est pas l'ultime obstacle à mon salut parce que la colère est un réflexe sacré de la justice de Dieu. Et l'essence de sa justice, c'est qu'il apprécie infiniment ce qui est infiniment précieux, à savoir son propre fils. Dieu envoie son fils à la boucherie, cloué sur une croix, ridiculisé, blasphémé, arraché la barbe, couronné d'épines. Je vous donne donc comment Dieu peut-il aimer. Si ce qu'il aime infiniment, c'est son fils, et qu'il fait ça avec, comment moi, je peux me sentir aimé? Comment je peux être certain que Dieu m'aime? En fait, quand Dieu dit dans 1 Jean, Dieu est amour, quand Jean dit que Dieu est amour, il répète à 2 reprises, qu'est-ce qu'il veut dire? Bien, il veut dire exactement ce que Piper et ce que Paul nous dit dans Romains. Lisons dans 1 Jean, je vous lis chapitre 4, verset 8. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Ce que je comprends quand Dieu dit « Je suis amour », c'est que c'est dans la nature même de Dieu de manifester son amour en donnant son Fils en sacrifice pour nous. C'est la nature même de Dieu de donner même son propre Fils. Mon péché n'est pas l'ultime obstacle à mon salut parce que ce qui rend mon péché si horrible, c'est qu'il dévalorise la gloire toute satisfaisante du Père et du Fils et de l'amour infini entre eux. Il y a une relation inévitable entre la gloire de Christ et le péché. Et Paul, dans Romains, est le texte, la lettre de Romains, qui explique le principe de la gloire et du péché ensemble Il n'y a pas d'autre texte qui le dit de façon plus directe et claire que Paul dans Romains. Romains 1, 21. « Ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce. » Gloire, grâce, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont fait des idoles. Et il continue au verset 23. « Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images. » Le péché, la gloire est connectée. Et c'est pas fini. Verset 3, chapitre 3, verset 23. Il n'y a pas de distinction. Tous sont pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout péché découle de l'échec de rendre gloire, de chérir la gloire de Dieu en toutes choses. Et un chrétien sait et commence à comprendre dès sa conversion ce principe. Tout péché découle de l'échec de ne pas rendre gloire, de ne pas chérir la gloire de Dieu en toute chose. Quand la tentation vient, quand le péché vient dans ma vie, mes mains, mon corps, ne rend pas gloire à Dieu. Quelque chose dans le chrétien qui se produit. Il y a une tristesse que l'Esprit produit parce que je sais que je ne suis pas en train de rendre gloire à Dieu. Un non-chrétien, il n'a pas ce combat-là. Il ne peut pas avoir ce combat-là. Appelé à refléter la gloire de Dieu. Nous qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir l'image de Christ. Nous sommes transformés gloire après gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Transformés gloire après gloire. Et quand le péché vient dans nos vies, nous ne reflétons pas l'image de Christ. Et nous devons être tristes. En fait, la gloire est ce qui dirige le changement dans la vie du chrétien. Si vous arrivez avec une nouvelle technique psychologique pour changer, pour transformer votre vie, mais que vous ne reflétez pas la gloire de Christ dans vos mains, dans votre corps, dans vos attitudes, on ne veut pas le savoir. Parce que Dieu travaille par sa gloire, il nous conduit par sa gloire, et suite à ça, il nous fait des promesses. Ne donnera-t-il pas tout aussi avec lui par grâce? La gloire fait partie de la logique de Romains chapitre 8. Pourquoi que je parle tant que ça de la gloire? C'est parce que c'est dans la logique de Romains chapitre 8, verset 29 et 30, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » La gloire fait partie de la logique de Paul. Dieu aime Jésus, il prend plaisir en Jésus, Jésus est glorieux, il est majestueux, il n'y a rien de plus grand. Et la logique, son fondement, c'est qu'il ne l'a pas épargné. Pourquoi? Il l'a livré pour nous tous. La raison du fait qu'il ne l'a pas épargné, c'est qu'il l'a livré pour nous tous. Qui est le « nous » dans notre texte? Est-ce que c'est tout le monde? Toute la planète? Universel. Il l'a donné pour tout le monde. Sans exception. Le « nous » représente à ceux à qui il parle. C'est-à-dire que ce passage est inclus dans la logique de Romains, chapitre 8, et les versets qui le précèdent. Le « nous » réfère à ses élus du verset 28, 29, 30, et là, il continue comme ça. « Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon leur, son dessein. » Et ceux qui l'appellent, il les justifie. Ceux qui le justifient, il va arriver à les glorifier. C'est invariable. C'est une chaîne en or que tous les maillons, ceux qui l'appellent, c'est sûr, vont être justifiés. Ceux qui vont être justifiés, c'est sûr, ils vont être glorifiés. Et ceux qui vont glorifier, c'est sûr, il va donner tout par Jésus-Christ. C'est ça, logique. Il veut pas seulement qu'on dénigre pas Jésus, qu'on atteigne sa gloire, mais aussi, il veut pas qu'il y ait un de ceux qu'il a appelés qui manque de foi, qui renie Jésus, qui sorte de la grâce. C'est une impossibilité de sortir de la grâce parce que c'est Dieu qui l'appelle et c'est Dieu qui travaille afin qu'on reflète l'image de son Fils bien-aimé. La seule façon pour faire ça était de donner son Fils. C'est son Fils qui se dresse entre la gloire éternelle et nous. Il y a juste le sacrifice de Jésus qui pouvait nous donner accès à la gloire. Juste ça. C'est Dieu lui-même qui donne le moyen. Poisson est propice pour nous accueillir, à la fois juste et gracieux, à la fois en colère contre notre péché, mais prêt à payer le prix. Parler autant de la gloire dans un message qui est supposé de parler du ciel. À mon avis, et c'est ce que je découvre de plus en plus en étudiant le sujet du ciel, c'est que je ne peux pas séparer le ciel de la gloire. J'ai relevé juste quelques versets à travers la Bible. Écoutez, « Tu me conduis par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. » Psaume 73, 24. « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Romains 8, 18. « Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » 2 Corinthiens 4, 17. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus avec la gloire éternelle. 2 Timothée 2, 10. Le Dieu de toute grâce qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle après que vous ayez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre 5, 10. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, Jude, verset 24. Et il y en a d'autres. Là, le ciel, c'est notre destinée, notre meilleure patrie. C'est ça qu'on devrait aspirer. On s'en va vers ça. Si on ne désire pas ça, posez-vous des questions sur votre salut. Posez-vous des questions sur où vous allez passer l'éternité. Et quand il pense un peu à tous ces versets, moi, je trouve ça incroyable, irréprochable, dans l'allégresse, dans sa gloire, tu nous présentes là. Pourtant, moi, quand je lis dans la Bible, tous ceux qui se sont présentés sur une manifestation quelconque de la gloire de Dieu, ils se sont tous considérés comme morts, tombés à pleine face. Prenez Moïse. Moïse, sur le mont Sinaï, tombé à pleine face. Quand il a demandé dans Exode chapitre 33 et 34, « Fais-moi voir ta gloire. » Il a fallu que Dieu le prenne, qu'il cache dans le creux d'un rocher. Et Dieu même dit, « Tu ne peux me voir et vivre. » Et il a finalement juste vu le derrière de la gloire passer. Les disciples sur le mont de la Transfiguration, Matthieu, Marc, Luc rapportent cet événement. Jean rapporte cet événement. Quand est-ce dans Jean 1, 14? « Nous avons contemplé la grâce glorieuse sur cette... Quand est-ce qu'on contemplait la gloire de Jésus? C'est sur cette montagne. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les disciples? Ils sont tombés à pleine face. Pas capables de regarder. C'est comme si je vous dis, regardez le soleil. Je peux pas. C'est trop fort, c'est trop puissant, je peux pas. C'est exactement ça. Et là, tout d'un coup, vient des passages comme ça qui nous disent on va être dans l'allégresse, dans sa gloire. Étonnant. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette gloire-là? C'est quoi? On a tendance à dire, et c'est vrai, que la gloire, c'est ce qui manifeste Dieu. C'est souvent transmis avec la lumière, avec une nuée ou une tempête. Dieu est glorieux, il manifeste sa gloire. Mais notez que quand ils sont tous tombés comme morts, là, Isaïe, Jérémie et tous les autres, notez ce que Moïse dit. J'ai vu les compassions de l'Éternel, la bonté de Dieu. Jean dit, oui, on a vu sa gloire, puis on sait qu'ils sont tombés à pleine face, puis qu'ils n'ont pas été capables de regarder. Et qu'est-ce qu'il dit? Nous avons contemplé grâce sur grâce. Toute la plénitude de Christ. Ce que je comprends, c'est que, prenez Jude, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Je ne peux pas vous dire à quoi que le ciel va ressembler, parler des rues, puis je veux pas dire aller plus loin que ce que la Bible dit. Au minimum, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y aura plus de péché, que ça va être dans l'allégresse irréprochable. On va être saints, plus de lutte avec le péché. Vous désirez pas ça, plus de combat. Plus de tentation. Plus de boss qui veulent, puis qu'on veut se venger, puis qu'on veut garder de l'amertume, puis qu'on n'est pas capable. Il n'y en a plus. Fini. Dans l'allégresse. Éternel. La gloire éternelle, 1 Pierre. La joie, la grâce, contempler sa gloire. Mais comment ne nous donnera-t-il pas tout avec lui par grâce? Ça, c'est la chose facile. C'est quoi le tout? Une partie de la réponse est dans le verset qui le précède. Que dirons-nous donc? À ce sujet, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Comme je l'ai dit, en fait, tout le monde est contre nous. Je suis persécuté, blasphémé, on voit ça dans le chapitre au complet. Ce que je comprends, l'argumentation de Paul, ce qu'il veut dire au verset 31, c'est « Qui peut être efficacement contre nous? » Qui peut être efficace contre nous? Qui peut avoir du succès contre nous? Au pire, je vais mourir. Mais Paul dit, en fait, c'est mieux. Nous sommes jusqu'à vainqueurs sur les persécutions, la maladie, les démons, le manque d'amour, les tribulations, les choses qui échappent à mon contrôle. Non pas parce que Dieu m'enlève de toutes ces choses-là, mais parce que je contemple comment Dieu utilise ces choses pour les faire concourir à mon bien. Je vais mourir, et dans les secondes qui suivent, je vais être en sa présence. Ce sont les promesses de Dieu qu'il a faites dans sa parole. Il va tout nous donner. Toutes les promesses qu'il nous a faites, il va nous les donner. Assurément. Quelques applications. Ensuite, j'aimerais faire deux applications pour notre jeunesse. Ils sont où, là? Ah, il y a une gang, là. Il y a une gang dans le fond. Qui est jeune? Alors, prenez les applications, je ne vous ai pas oublié. Mais nous sommes tous jeunes. Non, mais C'est vrai, tu sais, si on calcule sur 40 ans, peut-être vous êtes vieux, mais si on calcule sur 44 milliards d'années, on est jeune. La première application, en fait, je n'ai pas trop su comment le dire, mais je vais le dire comme ça. Nous ne sommes pas habitués à regarder vers la fin, ou même vers notre propre fin. Vous avouez que j'ai de la difficulté à imaginer qu'un jour, je ne serai plus. Peut-être qu'il y en a qui le désirent, mais un jour, je ne serai plus. Et vous aussi. Imaginez notre propre fin. C'est comme... pas habitué de penser à ça. Tu sais, quand on y pense, tu sais, je suis jeune, on est au Québec. Dans ma famille, je suis probablement celui qui est le plus en santé, par la grâce de Dieu. J'ai perdu mon père à 51 ans. Mon frère est plus vieux, maladie. Mon frère plus jeune a toutes sortes d'affaires bizarres. Mais un jour, je ne serai plus. En fait, on vit dans une société où on se dit sans tabou. Il n'y a plus de tabou, il n'y a plus de sujet clos. Je peux parler, là, si je pose la question, mettons, face à face, les jeunes dans la vingtaine, je dis « Hey, quoi ton idée sur l'homosexualité? » Ou « marier des animaux? » Je ne sais pas, n'importe quoi. N'importe quel sujet éthique. On a toute une idée. Toute une idée. Mais si je veux vraiment faire un impact, je vais dire quelque chose comme ceci. J'aimerais vous raconter comment mon père est décédé. En fait, il va avoir une réaction à peu près comme dans la salle ici, une espèce de silence. On ne parle pas de la mort. Pourquoi? Parce que c'est l'exposition de nos faiblesses. C'est l'exposition de ma faillite. Surtout dans notre société. Qu'est-ce qu'on fait avec les personnes âgées? On les met dans un foyer, on essaie de les oublier parce qu'on n'aime pas voir notre propre faiblesse qu'un jour je vais être là. L'exposition de nos limites, de notre vulnérabilité. Et quand on est jeune, on se sent invincible, on a la santé, on pense pas à ça, parle-moi pas de ça. Un jour va venir, je vais méditer là-dessus, là, pas tout de suite. Et un jour, et c'était mon cas, la mort d'un proche nous frappe. Et là, on est capable de l'expliquer parce qu'on n'a jamais réfléchi à ces choses. La maladie de quelqu'un qui nous entoure arrive. Et je ne suis plus capable de réfléchir à ça parce que je ne suis pas prêt. Méditer sur ces sujets, pour moi, il me semble qu'il y a deux mots qui viennent avec. Prévention et préparation. Je ne devrais pas être surpris quand la maladie vient, c'est la conséquence du péché, c'est notre mode de penser en tant que chrétien. Pas l'argument, c'est que je suis frappé à quel point Dieu nous fait grâce. Je devrais être frappé de parce que j'ai grâce. Je suis stupéfait d'avoir la santé, pas quand je le perds. Se priver de ces réflexions, c'est me couper d'une source d'encouragement et de force dans la lutte contre le péché. C'est de me priver d'une prévention de chute. C'est de me préparer quand ça l'arrivera. Blaise Pascal disait, « J'ai appris à vivre ma vie en commençant par regarder la fin. » Pourquoi qu'il disait ça? Il disait ça parce que ce qu'il voulait dire dans son exposé, c'était, « Écoutez, il y en a qui ne croient pas en Dieu, vous m'accusez. » Pensez à ça, les amis. Il y a la possibilité d'un enfer après ma mort. Moi, je suis chrétien. Si je meurs et que Dieu n'existe pas, je perds rien. si je meurs en tant que chrétien et que Dieu existe, je gagne tout. Mais si tu vis, toi, sans Dieu, et que tu meurs, et que tu vas mourir, et que Dieu n'existe pas, tu perds rien, tu gagnes rien. Mais il y a la possibilité qu'il y ait un enfer et un ciel dans lequel Dieu va tout te donner. Et si tu meurs et que Dieu existe, tu perds tout. J'ai appris à vivre ma vie en regardant la fin. L'application, cela devrait nous aider dans la lutte pour la sainteté et notre joie dans la sainteté. La grâce future, la grâce qu'on va recevoir jour après jour, transformée, image, de gloire, en l'image de Christ, qu'un jour je vais être glorifié, est le combat pour la lutte, pour la sainteté, la joie dans la sainteté, parce qu'ultimement, c'est vers ça que je m'en vais. Et ça commence ici. Et cette semaine, j'ai lu une phrase d'un puritain, Richard Baxter, et elle m'a percuté comme un choc électrique. Ça l'a produit en moi une crainte et un encouragement. Ça m'a amené à réfléchir sur ma vie, sur mon ministère, mes péchés, mes erreurs. Voici ce que Richard Baxter a dit à des personnes qui exerçaient un ministère. Anybody. Chrétiens qui exercent un ministère, particulièrement les prédicateurs. Il y a une erreur palpable de plusieurs ministres. Ils disent fort pour prêcher avec exactitude. Cependant, ils étudient peu ou pas du tout, pour vivre exactement. Erreur palpable de plusieurs ministres, ils étudient fort pour prêcher avec exactitude, cependant, ils étudient peu ou pas du tout comment vivre avec exactitude. Lui, il écrit il y a 300-400 ans. Et dans notre société, le chrétien moyen étudie peu pour exercer un ministère, et en plus, le chrétien moyen semble ne pas étudier comment vivre. Quelle est l'objection la plus courante qu'on entend contre les chrétiens? Ce n'est pas qu'il y a des divisions dans les églises, puis tu sais, il y a plein de mouvements baptistes, les frères, les pentecôtistes, puis tu sais, non, c'est pas ça. C'est pas l'argument principal que j'ai vu. Ah, toi, tu es chrétien. Ah, tu es comme l'autre, toi, là-bas. Moi, j'ai déjà eu quelqu'un qui était chrétien, puis quand il s'est converti, là, il ne m'a plus jamais adressé la parole. Il était tellement sûr de son message là, qu'il était prêt à diviser mon couple. Il était tellement sûr de son message qu'il n'a pas été capable de manifester de l'amour. Le gars, il est légaliste. Écoute, il est tombé dans la Bible. Il s'est mis à étudier au fond. Ça l'a transformé au point tel qu'il n'est plus capable d'entretenir des relations. C'est toutes des choses que j'ai entendues, pas sur moi, une chance. Ben, j'en ai entendu quelques-unes là-dedans. De réaliser qu'on étudie peu comment vivre. Première application. Tu sais, quand on regarde la liste des versets, tu sais, sur la gloire que j'ai mis, là, c'est tout ça. Là, tu sais. Avez-vous remarqué les sujets qui reviennent? Au moins deux. Persécution, épreuve. La deuxième, c'est l'espérance. Travaille par sa gloire. Nous tous qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir l'image de Christ, gloire après gloire. Nous sommes transformés. C'est la façon que Dieu conduit notre transformation. Comment? En reflétant sa gloire. Et j'aimerais vous inviter à être les modèles pour les plus jeunes. Parce que c'est toujours facile de taper sur la tête de nos plus jeunes pour dire « Ah, c'est facile, eux autres, ils se tiennent d'un bar, ils boivent de la bière, ils sacrent, ils ont de la misère à lire la Bible. Moi, je fais tout ça. Ils ont de la misère à prier. Moi, je fais ça. Moi, il y a... » Non, non, non. Moi, je me suis fait dire, dans notre groupe de jeunes, « Hey, c'est toute une gang de débauchés. » J'ai entendu ça. Je l'ai regardé, j'étais surpris de ça. Ma job, c'est de les amener à être conformes à l'image de Christ. Si tu n'as pas accompli ça, mon ami, tu es dans le champ. Puis si tu penses que ta jeunesse dans ton église est différente de la nôtre, vous êtes dans le champ. Les jeunes qui m'ont dit ça, c'est souvent les plus vieux. Parce qu'il est facile de regarder les plus jeunes. Mais les plus jeunes vont regarder les plus vieux et vont dire, « Ben ouais, c'est sûr, eux autres, c'est des légalistes. » Regarde, et puis là, on t'sais. Joël Compiéteur, il y a quelques années, est venu ici, il a fait un exposé dans le psaume 1, et il rapportait un sondage qu'ils ont donné à des personnes de 90 ans et plus, puis dans la question, il posait une question, c'est « Si tu avais à refaire ta vie, qu'est-ce que tu changerais? » 70% des répondants ont répondu « Je ferais plus de choses qui dureraient après ma mort. » À des personnes de 90 ans plus, 70%, je ferais plus de choses qui dureraient après ma mort. Et comment investir dans des choses qui vont durer après ma mort? Miser sur la gloire de Christ. Mais refléter Christ dans sa vie. Apprenez. Pensez pas que vous êtes en dehors des luttes et des combats. Pensez pas que vous êtes mieux que notre jeunesse puis que vous autres, vous avez de l'expérience dans la vie chrétienne. Il y a un risque de chute pour vous. On est tous dans le même bateau. Toute la gang. On grandit ensemble en tant qu'Église. On vit ensemble. On meurt ensemble. On a notre espérance ensemble pour l'éternité. Il n'y a pas d'excès à la gloire de Christ. Deuxièmement, la gloire de Christ est notre espérance. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas tout avec lui par grâce? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, par conséquent, qui peut être contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, par conséquent, qui peut m'accuser? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, par conséquent, qui peut me condamner? Lui qui n'a pas épargné mon propre Fils, par conséquent, la mort même ne peut pas vous atteindre. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, par conséquent, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, par conséquent, les tribulations, l'angoisse, les persécutions ne peuvent rien contre vous. Tout sujet de Romains chapitre 8. Rien ne peut venir entre moi et Dieu, parce que c'est Christ qui se tient exactement là ce qu'il faut pour que je puisse avoir mon espérance en lui. Car si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, infiniment digne de louange, il fera certainement quelque chose de plus facile, à savoir nous donner toutes choses dans une gloire éternelle. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui est vivante. Nous à regarder vers la grâce future, vers notre destinée, notre maison, Seigneur, notre réelle maison à laquelle on y va. Pour certains dans l'Église, il y en a que ça va être plus rapide que d'autres. Demandez de nous préparer. Et pour les autres, on considère que ça va être plus long, mais en réalité, on n'en a aucune idée. Je peux m'en aller chez moi tantôt, puis tu viens me chercher ou un de mes enfants, mes proches, croire en toi, croire en ta grâce à cause de Jésus-Christ. Merci pour ce sacrifice de Jésus. Merci pour ton Fils glorieux, infiniment digne de louange, qui s'est dressé sur une croix pour porter nos péchés. Et tu nous assures que ça, rien ne fera en sorte que tu nous feras entrer dans ta joie éternelle. Merci, Père. Amen.